Le chiffre spécial, c'est la population 2050. Une nouvelle étude montre que dès 2050, la population de la planète va diminuer. Un retournement complet de tendance, un changement complet de paradigme. La population commence déjà à diminuer, évidemment. Au Japon, ça fait un moment. En Chine, je vous rappelle que l'Inde a dépassé la Chine et que ça va s'accélérer. Vous parliez tout à l'heure, Christian Bitot, de la démographie.
Oui, on s'habitue au confort. Alors, est-ce qu'on va suivre le modèle japonais, qui est le pays qui a pris le plus d'avance dans le vieillissement de sa population, avec deux facteurs qu'il faut bien distinguer, ce qu'on appelle la pyramide inversée. C'est-à-dire aujourd'hui, les populations de classe âgée sont plus importantes que les jeunes, et donc ça vous donne une pyramide inversée. Alors
qu'à notre époque,
la pyramide des âges, on la voyait, elle était comme ceci.
Je le répète,
de vieux, plus de jeunes.
Vous connaissez bien le sujet.
Et oui. Et puis le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme qui permet une population de rester à son niveau ou de baisser. C'est 2,1. En France, on vient de baisser, on est encore à 1,8, mais on est parmi les meilleurs pays au monde en termes de taux de fécondité.
En Corée du Sud, 0,78.
Donc, donc ça veut dire qu'on va vers une diminution de la population mondiale. Oui. Est-ce que ça impacte l'activité économique, les marchés financiers? Ça va être difficile à mesurer. On constate qu'effectivement, au Japon, ils ont pris l'habitude d'être très contents, les épargnants japonais, en achetant des obligations à moins 0,10%, moins 0,20%. Bon. On constate un appétit effectivement plus faible, ça on le sait, les banquiers privés, quand on a des clients particuliers, quelqu'un de plus jeune a envie, on lui conseille d'investir à plus long terme, donc s'intéresse aux actions. Quand on se rapproche de la retraite, effectivement, on préfère assurer avec une attitude de rente. Est-ce qu'on peut néanmoins en tirer une règle? La Chine, pour contre-exemple, la Chine, ça y est, sa population est en train de diminuer, son taux de fécondité par femme est, s'il est bien mesuré, de 1,1, je crois, un 40. Donc ça y est, ça, en Chine, le facteur se produit. Pourtant, la locomotive de la croissance en 2023, c'est la Chine. Donc, on ne peut pas dire qu'un vieillissement de la population...
Pas tant que ça. On était à 10%, on était à 8%.
Oui,
maintenant,
mais
on va
la locomotive
être...
par rapport aux autres. On n'aurait pas le plus 5 chinois décidé et mis en œuvre par la Banque Populaire de Chine, par les autres.
Donc, vous dites que ça va peser sur la croissance.
Donc, ça devrait peser sur la croissance, mais ça n'est pas une règle absolue. Il faudrait plusieurs générations pour le mesurer.
C'est là où peut-être qu'on n'est pas d'accord, parce que je pense que sur la démographie, Valentine, bon, vous pensez qu'il va y avoir un déséquilibre, du fait notamment de la baisse de la démographie. Moi, je pense que la révolution technologique va contrebalancer ça de façon spectaculaire.
Alors, si on regarde, je partage ce point de vue, si on regarde empiriquement, c'est désinflationniste quand même. Quand la population vieillit, on a moins envie
On a quand même un labo qui est le Japon
Quand on vieillit, on a moins envie de consommer, baisse de la demande, baisse de l'investissement, baisse du prix des actifs parce qu'on vend pour financer sa retraite, donc il y a ce schéma où on dit, le vieillissement de la population s'accompagne de moins de pression, de pression désinflationniste. Après, est-ce que c'est le facteur qui va l'emporter Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans le monde d'après. Il y a ce vieillissement de la population, mais on a aussi, pour moi, le facteur pour moi qui va l'emporter, c'est les besoins de financement pour ce monde d'après, pour cette transition écologique.
Mais la révolution industrielle, l'intelligence artificielle, la robotique, c'est majeur, non?
Ça va être majeur, ça va permettre des gains de productivité.
Ça va pas contrebalancer les...
Ça peut contrebalancer les pressions inflationnistes. Et le sujet, c'est que ça va pas forcément être linéaire ni homogène entre les zones économiques. Et c'est là où ça va être intéressant pour les investisseurs. C'est que cette idée d'améliorer les gains de productivité, ça va pas être forcément quelque chose de linéaire dans le temps. Donc on peut avoir un moment des pressions inflationnistes découvertes, surtout si on arrive à rabaisser très fortement le prix de l'énergie. Et ça va être des gains de productivité formidables, etc. Mais donc pas forcément linéaire et surtout pas forcément homogène sur les zones. Et les gains de productivité de demain, c'est les investissements d'aujourd'hui.
Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Démographie contre digitalisation, intelligence artificielle, qui va gagner?
Je pense que ce qui va être extrêmement important dans les années à venir, et c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire que la révolution industrielle qui a lieu avec la robotique et l'intelligence artificielle, elle va pas avoir lieu à la même vitesse partout dans le monde parce que vous avez des facteurs culturels d'adhésion. Par exemple, effectivement, en Chine ou au Japon, on a une adhésion beaucoup plus rapide à ce type de sujet. En Europe, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous avez une étude qui a été publiée il y a 3 semaines de Stanford qui vous montrait qu'effectivement, donc qui comparait une myriade de pays, et sur tous les sujets sur l'intelligence artificielle, l'ouverture d'esprit, la capacité à comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, la capacité aussi à l'intégrer dans les organisations, parce que la réalité, c'est comment on intègre dans les organisations que sont les entreprises, c'est beaucoup plus grand aux États-Unis qu'en Chine. Donc là, il y aura effectivement un effet accélérateur, c'est positif notamment pour la Chine, puisque effectivement, du point de vue démographique, il y a un vrai sujet qui est immédiat, mais par exemple, pour l'Europe, ça va être quand même très très compliqué. C'est pour ça que au niveau global, ça va être très dur de mesurer et vous allez avoir des zones où l'intégration notamment de l'intelligence artificielle va prendre beaucoup de temps. Si vous regardez par exemple ce que fait l'Europe aujourd'hui, On fait de la réglementation. Et Thierry Breton, fièrement, nous a dit, après 2 ans de travaux, on réglemente quelque chose dont on n'a pas une complète visibilité en termes d'usage. Les Américains font l'inverse, on met énormément en termes d'investissement, mais vraiment beaucoup. On va permettre d'avoir de l'innovation et derrière cela, on espère avoir effectivement un vrai impact. Donc, il y aura dans tous les cas, en termes de gains de productivité, en termes d'avance technologique, l'Europe sera en retard. Je vous donne juste, si vous me laissez deux minutes très rapidement.
Deux minutes, c'est sûr que non, je ne les ai pas.
Une minute. Sur les ultrasons, on les découvre en 1911. Les ultrasons, donc d'abord pour les sous-marins, et ensuite, vous avez plusieurs applications. Dans les années 50, on tente vainement dans la lutte contre le cancer, et à partir des années 70, on le sait, on le tente justement avec succès dans l'obstétrique. Imaginez que vous ayez le régulateur européen qui vous dit, viens voir ces ingénieurs en 1911 et qui vous disent, bah finalement, on va réglementer très strictement. Indéniablement, on n'est pas en mesure de savoir ce qui va se produire sur les innovations technologiques. Donc c'est un frein supplémentaire qui s'ajoute à l'aspect culturel et au frein au niveau organisationnel.